Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que la minoration du rôle des femmes dans cette organisation armée a été très longtemps minorée. Donc il y a eu une invisibilisation sociale et scientifique hein, de cet engagement des femmes au sein de l'OEA. Invisibilisation sociale tout d'abord, hein, qui s'explique par une relégation des activités des femmes qui étaient pendant longtemps à l'arrière. Une hagiographie militante qui prône les héros masculins. Et il faut savoir que dans le monde nationaliste basque traditionnel, le héros, pendant très longtemps, était le fils ou le frère. Et la femme se maintenait dans son rôle traditionnel comme gardienne de la maison et représentante en fait, de la patrie et de la fertilité. Et ça, on peut le voir dans d'autres courants nationalistes. Donc, et d'ailleurs, le rôle des femmes a été longtemps premier dans les rites funéraires, j'en parlerai, où la mère, dans le cas où le militant mort était célibataire, ou l'épouse, hein, lorsqu'il était marié, quelque part réalisait l'offrande de son fils ou mari au peuple basque et à sa cause. Alors, il faut savoir aussi que la littérature scientifique, pendant de nombreuses années, elle a été androcentrée, on pourrait dire, elle est même encore. Bon, ça s'explique aussi sûrement par le fait que les femmes ont été très souvent en coulisses. Mais il y a une chose qui est très importante au niveau de la méthodologie, c'est que le statut d'informateur aussi joue beaucoup. Dans certains travaux, quand on avait affaire à des informateurs hommes, bien souvent les femmes étaient rendues invisibles. Et quand c'était des femmes, voilà, certaines femmes ont dit très vite que dès la naissance de Théa, qui était en 1959, il y avait une présence des femmes. Mais je reprends par exemple les travaux de Robert Clark, qui avait accès qu'à des informateurs hommes, et des militants en 83 disaient, non, en 73, que Théa s'était refusé à recruter des femmes, qu'à leur place était à la maison. Donc le statut de l'informateur aussi joue dans cette invisibilisation. Et il a fallu aussi, même le statut aussi, on pourrait dire, des chercheurs, hein, parce qu'il a fallu attendre les travaux de Carrie Hamilton pour travailler la question du genre dans ETA. Et d'ailleurs, même encore, hein, je prends par exemple le travail de l'historien Antonio Elorza, une histoire d'ETA, qui en fait, tout est neutralisé. On parle d'Etara ou de membres militants, mais on n'a pas accès en fait à cette dimension genrée. Donc invisibilisation sociale et invisibilisation scientifique, alors que une des singularités de l'organisation armée basque ETA, c'est que les femmes y tiennent une place plus importante que dans d'autres organisations armées nationalistes, comme par exemple en Corse, le FLNC ou même l'IRA en Irlande. Alors certains ont travaillé sur ces questions en disant est-ce que c'est l'idéologie sous-jacente de cette organisation, le marxisme était central, qui expliquerait cette présence plus importante des femmes. Donc ça aussi on pourra travailler ça en débat, hein. Est-ce que l'idéologie sous-jacente d'une organisation amène plus de femmes que d'autres, enfin organisations. Après aussi les facteurs plus structurels, hein, l'entrée des femmes aussi pourrait s'expliquer par voilà, la structure aussi du marché du travail, l'accès à un moment donné à une scolarité plus longue. Donc voilà. Avec vous, je voudrais travailler. Je me pose la question de l'évolution et des transformations que vont produire la présence des femmes dans ETA. Je me suis posé la question, est-ce que ça va bouleverser ou reproduire un certain ordre sexué à la fois dans l'organisation armée basque, mais aussi dans les représentations de la société. Alors, le cadre théorique que j'ai mobilisé dans mes recherches, c'est de croiser en fait donc la sociologie de la violence politique à une sociologie des rapports sociaux de sexe. Et c'est important aussi pour rendre moins exceptionnel déjà l'objet violence politique, mais aussi l'entrée de ces femmes dans l'organisation armée en mobilisant des concepts tels que féminisation, division sexuelle du travail, dont parlera Jules Falquet demain, et stéréotypes sexués. Et on verra, je vous montrerai après, qu'il y a des questionnements que les sociologues du travail ont, notamment dans l'accès aux positions de pouvoir à l'intérieur de l'organisation armée basque ETA. Alors, au niveau méthodologique, ce que je vais vous présenter est à prendre avec une grande prudence, parce que quand on accède à la violence politique, c'est la question des sources qui est vraiment importante. Et comme a pu le constater Jean-Louis Briquet, hein, pour la mafia, par exemple, ce type de recherche est largement tributaire des sources judiciaires, d'enquête de police. Donc, il s'agit le plus souvent de représentations des institutions répressives en tant que telles, et non vraiment de l'expérience réelle de ces femmes. Bien que, bon, là, quelques chercheurs, quand même, sur le cas basque, ont eu recours au récit de vie, mais bien souvent, c'est plutôt les données judiciaires auxquelles on a accès. Donc, moi, j'ai récolté à la fois, donc, bien sûr, j'ai recensé ce qu'on a déjà fait les chercheurs, surtout anglo-saxons et espagnols. J'ai accédé à des romans, des films, des articles de presse, bien sûr des documents autobiographiques, de militantes. Mais j'ai aussi prolongé certaines données statistiques qu'avaient déjà réalisées des chercheurs en récoltant les fiches de militants emprisonnés basques que mettent à jour régulièrement les associations de soutien aux prisonniers, mais aussi les fiches d'arrestation qu'on peut trouver, par exemple, sur le ministère de l'Intérieur en Espagne, qui, eux, mettent en libre accès ces données. Bien sûr, aussi, je me suis appuyée j'ai réalisé une thèse ethnographique entre 2002 et 2009 au Pays basque français, qui m'a assuré une familiarité et un décodage des sources mobilisées. Alors, l'organisation Armée ETA, elle est née en 1959. Ça renvoie à ce que disait Ami Jacques Rapin. Si on travaille vraiment sur les contraintes organisationnelles, ETA, c'est une organisation qui est extrêmement hiérarchisée, bureaucratisée au sens weberien du terme. Elle repose sur une stricte division des tâches entre les membres d'organisation, un cloisonnement cellulaire qui est destiné à éviter toute infiltration du cœur de l'appareil clandestin, et une spécialisation de ses membres fortement différenciée. Alors moi, je me suis attachée jusqu'à 2011, parce qu'il faut savoir que là, depuis 2011, le groupe armé basque ETA a annoncé l'arrêt définitif de son activité armée. Donc, dans le cadre de cette communication, je travaille jusqu'aux données de 2011, parce que la sortie de la violence, c'est un sujet en soi, et donc j'ai écarté ça. Donc, ma présentation, elle se fera en trois temps. Tout d'abord, vous montrer que la progression des femmes dans les commandos actifs et dans le leadership d'ETA va transformer en partie le monopole masculin de la violence politique, mais les inégalités de genre vont se reproduire au sommet de l'organigramme. Et je vous montrerai qu'un éthos du guerrier masculin se maintient même à l'intérieur de l'organisation. Et pour finir, je vous montrerai combien les médias et la littérature vont participer de ces transformations et permanences des stéréotypes sexués. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit une certaine féminisation de l'accès à la violence politique basque. Au fil des années, la proportion des femmes dans l'organisation clandestine, ETA, a progressé. Si je reprends, par exemple, les chiffres recueillis dans les enquêtes policières qu'avait réalisé le journaliste Dominguez Iribarren, on voit, dans les années 1970, les femmes représentent 10% des personnes liées à ETA, puis on voit cette progression dans les années 80, elles étaient 15,7%, les trois premières années de la décennie suivante, 20,68%. On voit la même chose au niveau de l'emprisonnement. Et jusqu'à, j'avais récolté en fait les chiffres jusqu'en 2009, c'est-à-dire que dans les années 80, il y avait 8% de femmes qui étaient emprisonnées dans les prisons espagnoles et françaises. En 2009, c'était à peu près 16%. Donc on voit cette progression des femmes. Mais on ne peut pas s'arrêter qu'à cette progression numérique si on veut travailler sur la féminisation dans l'accès à la violence politique. Et bon, ça, beaucoup de sociologues ont travaillé ces questions dans d'autres champs. Mais la description statistique, si l'on en reste aux chiffres globaux, ça ne suffit pas. Il faut regarder les phénomènes de distribution de postes à l'intérieur de l'organisation. Donc je me suis attachée à analyser et préciser les modes de participation des femmes à l'intérieur d'ETA. Parce qu'en fait, cette féminisation de la lutte armée ne peut se comprendre que si on regarde la division sexuelle du travail dans l'organisation et voir comment elle s'inscrit dans des principes de séparation qui vont assigner hommes et femmes à des activités de travail différentes, mais également la hiérarchisation des tâches. Et ça, Danielle Cargoat, une sociologue du travail, l'a très bien montré, une hiérarchisation des tâches où on verra qu'un travail d'homme va avoir une valeur plus importante qu'un travail de femme, en fait. Donc, je m'étais attachée à construire une typologie des fonctions organisationnelles dans ETA, donc des fonctions de coulisses, on va voir, des fonctions guerrières, des fonctions de représentation, de commandement et théorique. Et à partir de cette typologie, je me suis attachée à comprendre comment ces fonctions se répartissaient de façon genrée. Et à l'instar de ce qu'a pu montrer Jules Falquet pour la guerre civile révolutionnaire au Salvador, hein, jusqu'aux années 80, la division sexuelle du travail dans l'OTA, elle est très claire. C'est aux femmes l'arrière, la logistique, l'approvisionnement, hein, là je reprends les travaux de Jules Falquet, l'alimentation, le soin aux blessés, le deuil et tout le prestige qui va avec auprès des femmes, hein, la direction, la stratégie. Et on va voir qu'à partir du milieu des années 1980, au sein de l'OTA, la distribution du travail violent, elle va évoluer horizontalement, on va dire, beaucoup moins verticalement. Alors, 1980, il faut se rendre compte qu'en Espagne, c'est la transition démocratique et l'organisation armée va entrer dans une militarisation qui va peu à peu, au fil des années, entrer dans une violence indiscriminée avec des attentats de type voiture piégée. Alors, on pourrait croire que la militarisation va produire un effacement des femmes, et au contraire, la militarisation n'a pas empêché l'augmentation du nombre de femmes dans l'organisation. De plus en plus de femmes vont être arrêtées pour des assassinats et des attentats à la voiture piégée. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que des changements sont également apparus dans des fonctions de représentation. Actuellement, depuis les années 80, dans les prisons, il y a un collectif des prisonniers. Il y a à chaque fois un homme et une femme, ce qui n'était pas le cas avant les années 80. Et ce qui est aussi important dans les fonctions de représentation, en 2006, lors d'une conférence de presse donnée par trois membres de TA cagoulés qui annonçaient un cessez-le-feu, la femme a pris la parole et elle était positionnée au centre. Et depuis la dissolution de TA politico-militaire, hein, aucune femme n'avait encore parlé lors d'un communiqué de presse. Donc on voit cette progression peu à peu des femmes et des entrées dans des fonctions qui étaient jusque-là très masculines. Donc, les femmes entrent incontestablement dans des fonctions guerrières et de représentation. Ça réduit, si vous voulez, une ségrégation horizontale du travail militant. Malgré tout, quand on regarde toujours cette division sexuelle du travail, elles sont aussi rentrées dans le leadership pour certaines femmes pendant ces 10 dernières années, mais ça reste encore très faible. La division, en fait, sexuelle du travail n'a pas disparu. En fait, mais ça, c'est ce que d'autres sociologues du travail ont montré dans l'entreprise, hein, c'est qu'elle s'est déplacée à d'autres niveaux de l'organisation. C'est-à-dire que quand les femmes de TA ont accédé à des postes de responsables, leurs tâches reproduisaient une certaine division sexuelle du travail. Donc celles qui ont été arrêtées, qui étaient responsables en fait dans l'organisation, très souvent étaient dans des secteurs considérés comme plus féminins, comme par exemple la documentation, l'information, les relations internationales. Et de fait, on parlait tout à l'heure de théorie. Les femmes ont été très souvent écartées des stratégies du groupe. Et d'ailleurs, c'est ce que montre l'anthropologue Myrène Alcedo, les idéologues de TA ont toujours été des hommes, en fait. Donc, on voit donc cette progression des femmes dans certaines fonctions, mais pas dans tout. Alors, beaucoup de chercheurs ont réfléchi, enfin, les chercheurs qui ont travaillé sur cette question se sont demandé d'où pouvait provenir cette féminisation. Alors, certains pense que l'accès des femmes survient au moment où le groupe armé est le plus dévalorisé. Alors ça, j'ai pas de réponse, parce que ça aussi, en sociologie du travail, il y a toujours ces questions de... Voilà, les femmes qui entrent dans des fonctions de médecin, à un moment donné, à partir de quel moment on peut dire que... Voilà, ou prof, maître de conférence, en ce moment, il y a beaucoup de femmes, enfin bon, bref. Donc, beaucoup d'auteurs vont nuancer cette féminisation de la lutte armée basque, voilà, en invoquant cette dévalorisation du groupe. D'autres aussi, en montrant, et ça on peut le voir aussi à partir de documentation militante, il faut le dire quand même, l'imaginaire en tout cas du héros masculin est toujours très présent dans l'ETA. Il y a une ritualisation qui est très très forte dans le nationalisme basque, et les hommages qui sont rendus, en tout cas à ceux qui sont décédés, sont très souvent, en fait, dans l'imaginaire, il y a des documents qui sont transmis. C'est toujours une représentation de l'homme, en fait, barbu, avec le fusil. Et bon, il y a eu quand même des hommages pour deux femmes décédées, mais quand on récolte le calendrier commémoratif en fait du nationalisme radical, c'est bien souvent des hommes en fait. Il y a un effacement aussi dans l'iconographie militante, même sur les peintures murales, hein, quand on va au Pays Basque espagnol ou français, c'est bien souvent les hommes qui sont représentés. Et d'ailleurs, la figure du héros féminin, elle a été aussi beaucoup plus contrôlée que celle des hommes. Et je vais vous prendre la vie de Yoyes, qui en fait a fait l'objet d'une littérature conséquente de films qui sont aussi tirés de ses carnets intimes. Je vous dis rapidement sa trajectoire. Donc, Maria Dolores González Catarines, elle est née en 1954 à Ordizia. Elle adhère à l'organisation en 1973. Elle est repérée par la police et elle va franchir la frontière et va diriger de la France des commandos légaux. Elle va aussi former au maniement d'explosifs. Et elle sera considérée comme l'une des représentantes les plus importantes de TA militaire. Elle va s'éloigner en fait du mouvement au moment de la mort d'un de ses camarades. Et petit à petit, elle ne va plus partager les stratégies du mouvement. Et elle va se réfugier au Mexique. Et en fait, la direction de l'organisation va lui dire de tenir sa décision sous silence. Elle aura un enfant au Mexique. Elle était déjà mariée avant. Et en fait, elle demande à l'organisation de revenir vivre au Pays Basque auprès de son mari qui est professeur de philosophie au lycée. Et son retour s'inscrit dans un contexte de politique de réinsertion des détenus. Donc le retour de Yoyes, elle est accepté par le gouvernement espagnol, mais pas par l'organisation armée. Et en fait, pourquoi ? Parce que alors, elle est devenue une héroïne au fil de son exil. Et en fait, sa sortie du militantisme va être considérée comme une trahison par le groupe armé. Et elle va être assassinée par l'un de ses camarades dans une fête en Espagne, hein, sur la place publique. Et ce qu'on voit, c'est que des hommes de TA avaient quitté l'organisation sans avoir été sanctionnés. Et elle a été sanctionnée physiquement. Ça a été une des seules. Donc, c'est aussi à réfléchir qu'est-ce qui fait que c'est la femme militante de l'organisation armée qui a subi ce type de sanctions physiques. Donc, voir aussi que même à l'intérieur du groupe, il y a eu aussi un ordre sexué qui s'est construit, une exceptionnalité de la femme dans l'accès à la violence qui s'est créée. Je ne sais plus combien de temps il me reste.
Encore presque
10 minutes, d'accord. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que donc on voit cette progression et cette réassignation du genre aussi à l'intérieur de l'organisation armée. Vous dire aussi que malgré tout, dans le nationalisme basque qui soutient en fait l'organisation armée ETA, il y a toujours, en fait, si vous voulez, j'avais pu montrer ça dans mes travaux en thèse, le travail émotionnel qui se fait autour du prisonnier est encore fait par les femmes en fait. C'est elles qui sont au cœur de la relation épistolaire entre les prisonniers et la famille. C'est elles qui vont voir les prisonniers. Hein. On appelle souvent en Espagne les femmes de l'autobus. On n'a pas encore vu les hommes de l'autobus. Mais c'est elles qui participent à créer ce travail émotionnel autour de la cause basque. Donc il y a encore, certes, des femmes qui sont entrées dans l'organisation armée, mais tout un support en fait, logistique qui est encore très prégnant du côté des femmes. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est là également dans les représentations aussi de la société, on voit ces évolutions et ces réassignations de genre. J'avais repris donc les travaux de Fanny Bugnon, hein, qui interroge la réception médiatique de l'engagement, de la violence politique des femmes d'action directe. Et on voit exactement la même chose qui se passe. On pourrait aussi voir entre nous tous nos terrains. C'est que pendant du milieu des années 60 au milieu des années 70, la première figure de la militante d'ETA qui se construit dans la presse, c'est l'image du couple terroriste. Les femmes seraient passives et entreraient dans l'organisation par amour pour un homme. Ça, c'est très présent. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que Karim Hamilton avait montré, c'est que bien souvent, les femmes dans ETA entrent par les réseaux de socialisation familiale. La famille est vraiment au cœur de l'engagement de toute façon au Pays Basque. Elles ont été très souvent initiées par leurs pères et leurs frères. Mais moi, ce que j'ai pu voir aussi dans mes entretiens biographiques, là du coup sur le nationalisme basque en général, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'entrée dans la violence des dispositions héroïques par les frères ou les fils, mais on n'a pas vu cette transmission de femme à femme. Et j'ai repéré quelques romans qui en parlent, et aussi dans les entretiens, on peut le voir, c'est que il faut savoir que la socialisation à la violence poétique, pour certains, c'est passé de la mère à la fille. Enfin, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas du tout été travaillées dans les travaux scientifiques. Ce sera à creuser, en fait. Donc, d'abord, la première image de la femme donc, dans la violence poétique, c'est d'abord cette entrée par amour, en fait. Après, on va voir à la fin des années 70 l'image de la femme dangereuse, plus froide, plus sanguinaire, qui se traduit dans la presse, mais aussi par les forces de l'ordre qui vont véhiculer aussi cette image de la femme violente et beaucoup plus sanguinaire que les hommes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fil des années, vu que les femmes sont de plus en plus présentes dans l'organisation armée, on voit une normalisation, en fait, même dans la presse de ces femmes terroristes, entre guillemets. Ce que j'ai pu repérer, et que je voulais aussi débattre avec vous, c'est qu'il y a des stéréotypes sexués qui vont disparaître au fil des années parce qu'il y a une entrée des femmes. Mais les frontières de genre les plus hermétiques vont être franchies par certaines militantes et on va voir des nouveaux rappels à l'ordre se construire. Et je voulais discuter avec vous de la question de la maternité en clandestinité parce que pendant longtemps, bon, alors, les hommes de Théa ont été réfugiés en France, avaient une vie de famille et la maternité et l'engagement s'excluaient mutuellement. Et d'ailleurs, Yoyes, elle sort de la violence à partir du moment où elle a un enfant. Donc, il y a l'idée que l'entrée, en tout cas, dans l'organisation armée va impliquer des renoncements à la maternité en tant que femme. Enfin, et ce qu'il y a, c'est qu'au fil des années, vu qu'il y a de plus en plus de femmes, on a vu de nombreuses femmes qui avaient un enfant durant la clandestinité. La presse, du coup, s'interrogeait. Alors, elle s'interrogeait plus sur les femmes dans la violence, puisqu'il y en avait de plus en plus, mais la presse s'est beaucoup interrogée sur ces femmes qui cumulent clandestinité et éducation, enfin, et maternité. Et on pouvait voir dans les derniers temps dans la presse un rappel à l'ordre. Enfin, en tout cas, la presse mettait en scène une répartition des rôles sexués en disant. Les femmes restaient à l'arrière, là aussi, à s'occuper de leur enfant pendant que leur mari partait faire les actions. Donc il y avait vraiment un retour dans la sphère privée à l'intérieur de la clandestinité. En tout cas, du côté de la presse. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense qu'il y aurait tout un travail à faire à travers des récits de vie pour voir ce qui se joue, en tout cas pour ces femmes-là, d'être mères en clandestinité. Mais ça, il faudrait accéder à ces femmes-là en prison. En fait. Pour conclure, on voit une progression des femmes dans les commandos actifs et dans le leadership de Théa, qui vont donc bouleverser en partie le monopole masculin de la violence politique, et notamment aussi la répartition sexuée des tâches, sur laquelle s'était construit d'ailleurs le nationalisme basque traditionnel. Donc, malgré son constat statistique, on voit que les inégalités de genre, en tout cas, vont se reproduire au sommet, c'est-à-dire donc l'intégration de ces femmes se fait dans un groupe armé beaucoup plus isolé et qui maintient une certaine reproduction de la division sexuelle du travail au sommet de l'organigramme et qui va maintenir l'éthos du guerrier masculin. Je pense que je vais m'arrêter là, mais enfin, en tout cas, je pense que l'avenir aussi de ces recherches serait de passer beaucoup plus par les itinéraires biographiques. Pour voir justement ces processus de carrière, en fait, dans la clandestinité, qui permettraient aussi d'accéder de façon plus concrète à cette division, en tout cas de la segmentation sexuelle à l'œuvre dans le théâtre. Parce que là aussi, je suis toujours contrainte méthodologiquement par les représentations de la presse et aussi des institutions dites répressives, en fait. Donc, voilà, je vous remercie.